attention, attention. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Auditeurs, auditrices de Radio Canu, elle est belle, elle est jamais vaincue. Vendredi 15h, passé de quelques minutes, hein, vous retrouvez le club Oldies, votre Rilly Rilly Goodies. Comme tous les vendredis, donc une heure de sélection pour vous en vinyle. Dans les vieilles années de la musique. Cette semaine, un invité, oh, c'est Thierry de Sacha Music qui sera avec nous, qui est avec nous. Salut Thierry. Est-ce qu'on t'a entendu?
Je sais pas si on m'entend.
Ouais, voilà. Thierry est avec nous. Thierry, alors le présenter vite fait, amateur de musique,
ouais.
Doux collectionneur de vinyle,
ouais.
Revendeur de certains de ses disques de collection, du coup vendeur, disquaire. Disquaire dans le monde virtuel, sur les différentes plateformes, eBay, Discogs, tout ça. Disquaire un peu plus palpable, hein, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, on peut lui demander des conseils. C'est le week-end dans la boutique lyonnaise Danger House.
Oui, tous les samedis. Oui.
Du côté de la Martinière. Également animateur radio. Il anime les Dodécaphonies.
Ouais, alors c'est une fois par mois sur une radio du web qui s'appelle Lille Radio.
Ouais.
C'est une émission uniquement consacrée aux années 60 françaises. Et puis bah, je vais faire un petit résumé aujourd'hui. Quoi.
Ouais, c'est ce qu'on va écouter. Ouais. J'ai noté, tu es également producteur. Tu as produit des compiles il y a quelques décennies de ça.
Quelques décennies, oui. Dans les années 99-2000, j'ai sorti des compilations sur des artistes années 60 obscurs. Français qui s'appelle Swingy Mademoiselle, et après j'en ai fait d'autres pour d'autres labels, je reparlerai un petit peu tout à l'heure.
Hein. Ouais, tout à fait. Et puis DJ quand le temps le permet, bah, à l'occasion.
J'étais régulièrement DJ au Vox et au Bootlegger, mais bon, maintenant vous savez, depuis 2 ans, depuis 1 an, il n'y a plus rien et je sais pas si ça recommencera, j'en sais rien du tout. Personne ne sait. Attention.
Et du coup, cette semaine, donc, on sera dans les années 60 françaises.
60, plutôt la deuxième partie des années 60, entre 66 et 68, en gros.
On en parlait tout à l'heure, alors c'est pas spécialement salut les copains, ça peut y faire penser.
Non, c'est pas vraiment ça. C'est après les yéyés. Ce qu'on appelait à l'époque le jerk, le mythe, le beat, les modes, etc. Ça vient après les années yéyés, c'est plus les années 62-65. Puis c'est le son qui vient après, quoi. Le son très influencé par ce qui se passait en Angleterre. Et Made in England, quoi, c'était était très, très influencé par. Enfin, les groupes étaient très influencés par ce qui se faisait en Angleterre, puis ça donnait un mélange franco-français, quoi, avec des influences anglaises, et c'est ce qu'on va écouter ce soir, quoi.
Attention, ouais. Attention, c'était le morceau d'introduction.
Alors, ça, c'était un morceau instrumental, c'était de Laurent Vincent. Ça s'appelle Rechercher pour, en fait, c'est une adaptation de You're No Good, le standard de Betty Everett et de. Enfin, qu'a chanté Betty Everett, entre autres, et Tad James, je ne me rappelle plus qui était la version originale. Et Roland Vincent, qui était un arrangeur plus qu'un chanteur, du reste, il ne chante pas beaucoup sur le morceau. Mais en fait, si vous êtes amateur des années 60, on trouve souvent son nom pour les orchestrations, pour les écritures de morceaux chez plein d'artistes.
D'accord. On poursuit avec.
Avec les Gypsies Proletaires.
See
j'y vais. Ouais. C'est mon tour, c'est sûr. Bah... Oui, donc on a commencé avec deux vrais groupes. Enfin, ce que j'appelle vrai groupe, c'est que dans les années 60, en fait, il y avait les groupes qui jouaient vraiment, puis il y avait les productions de studio. Donc tout s'est un peu mélangé. Et donc on a commencé avec les Gypsies prolétaires. Les Gypsies qui étaient vraiment des prolétaires, c'était des petits jeunes de Malakoff, la banlieue parisienne. On sortit un seul et unique disque sur un label hollandais. C'est assez étonnant, Relax. Et c'est vraiment du garage français comme il y en a peu. On avait enchaîné avec un groupe un peu dans le même genre, mais c'est pas des Parisiens, c'est des Alsaciens de Falcon. Ce morceau s'appelle El Camel. C'est aussi un groupe vraiment dans le son garage qui tient la route par rapport au groupe anglo-saxon. Et c'est un groupe qui était franco-allemand parce qu'ils auront une deuxième partie de carrière en Allemagne à Sarrebruck. Où ils chanteront en anglais, mais leur premier disque en français est vraiment très très bien.
Et tous ces groupes-là, ils étaient connus en France?
Non, pas du tout. Non, ah oui. Pas du tout. C'est pour ça que les disques, enfin, si pour les collectionneurs, les disques, voilà, c'est cher parce que en fait, il y en a très peu, quoi. Enfin, ça s'est pas vendu du tout. C'est des choses qui ont été redécouvertes dans les années. Dans les années 90-2000, en fait, il y avait toute une génération de gens qui venaient du punk comme moi, qui sont mis à découvrir les années 60, mais plutôt anglo-saxonne, avec des compilations comme Back from the Grave, enfin avec des groupes américains, etc., des groupes anglais. Et puis, au bout d'un moment, beaucoup de gens se sont dit, mais c'est pas possible, il doit y avoir aussi des groupes de la France. On connaissait en gros que Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et Sheila. En fait, on n'avait pas trop creusé. Mais en fait, en France aussi, il y a eu énormément de petits groupes inconnus ou de chanteurs qui n'ont pas marché. Et puis, il y a commencé à avoir de gens, dont moi, mais d'autres aussi, qui ont commencé à fouiller, à gratter tout ça et à faire réémerger des artistes qui avaient disparu. Dont certains sont devenus, par exemple, je sais pas, une chanteuse comme Jacqueline Taïeb, 7h du matin, elle est beaucoup plus culte aujourd'hui qu'elle n'était dans les années 60, parce qu'elle a été redécouverte par toute une scène dans les années 80-90, qui a fait réémerger ces trucs oubliés. Enfin, il y a aussi le même phénomène dans les groupes américains. Par exemple, le groupe Garage des Sonics était complètement inconnu dans les années 60, et aujourd'hui, il est connu dans le monde entier. Donc, en fait, ça fait partie des gens qui fouillent et les diggers, comme on dit aujourd'hui. Mais à l'époque, on appelait pas ça comme ça.
Et une dernière question, ces groupes là, français, là, ils sortaient, alors je vois, c'est des 45 tours, 4 titres, ils sortaient des albums?
Non.
C'était que des...
En fait, dans les années 60, le standard, c'était le 45 tours, 4 titres. Il y avait très peu d'albums. Tout simplement parce que les gens, chez eux, faut savoir que les gens n'avaient pas vraiment de chaîne IFI, hein, ça coûtait très cher, puis ça n'existait pratiquement pas. Donc les gens avaient des petits pick-up, et les petits pick-up, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est assez petit, donc si vous avez un 33 tours, ça dépasse. Et c'était pas, en fait, le standard pour écouter de la musique, comme aujourd'hui, c'est les MP3 et les téléphones. À l'époque, c'était le pick-up, donc les pick-up, ça avait à peu près la taille d'un 45 tours, et le standard, c'était les 45 tours, donc les gens achetaient des 45 tours, 4 titres et 2 titres. 4 titres pour la première partie des années 60, et à la fin des années 60, c'est plutôt des deux titres. Et
puis peut-être qu'ils écoutaient dans les jukebox aussi.
Oui, oui, c'est ça, les jukebox. Voilà, les deux titres étaient. Du reste, en France, ce qu'on appelait les jukebox, les 45 tours de titres étaient pas spécialement vendus dans les magasins de disques. Dans les magasins de disques, on trouvait les 4 titres, et les deux titres, c'était un marché qui était différent, donc qui était vendu directement aux établissements qui avaient des jukebox. Donc pour beaucoup, des bars, des boîtes de nuit. Des bars et des boîtes de nuit, en fait, principalement. Voilà. Bah, on va continuer encore, on va continuer. Il y a un groupe que j'ai présenté quand même, parce que c'est un groupe lyonnais qui s'appelle Léomard Violet. Donc on reste dans des petits labels, parce que les groupes qu'on a écoutés pour l'instant, c'est que sur des petits labels, c'est pas des majors. Donc là, c'est un des groupes les plus mythiques lyonnais des années 60, qui ont sorti un seul 45 tours en 1967. Sur le label JBP, qui se trouvait 29 rue Royale dans le premier, donc pas très loin. Et c'est un groupe assez mythique, c'est très brut, c'est très, très lofi, comme on dirait aujourd'hui. On va l'écouter tout de suite, le morceau s'appelle Le Clodo. Un clodo avait loué les poubelles
ta bouche le métro. Son antifrice préféré. Signal à l'Hexatoro. Il a lu cela dans son litré, avec des lunettes mal lavées. Mais moi, oui, je m'en fous, je suis un comme ça, car, car, car. Ce clown, c'est moi, ce clown, c'est moi, ce clown, c'est moi, ce clown, c'est moi.
Sacham Musique est au Club Oldies.
Sacham Disque.
Aujourd'hui, Sacham Disque, je t'ai dit. Ouais, Sacham Disque, ouais.
Ouais, c'est mieux.
Alors là, on écoutait le Graal.
Oui, on écoutait enfin, deux de mes 45 tours, Wilm, mais Graal. Donc, Léomard Violet, donc le Clodo, j'en avais parlé avant un petit peu, donc le groupe lyonnais, sur le label JPB. Un disque qui valait très très cher parce qu'il a dû se vendre. C'est pas vendu à l'époque, pas du tout. Et il était complètement introuvable. Mais depuis 2-3 ans, il ne l'est plus parce qu'il a été réédité de façon identique par un label parisien qui s'appelle Caméléon.
Ils se vendent mieux maintenant.
Je sais pas trop si ça fait baisser le prix de l'original, mais en tout cas la réédition est déjà épuisée. Mais enfin, il y en a eu quand même 1000, donc je pense qu'il y a eu plus de rééditions que d'originaux. Et maintenant on le trouve, il est encore en vente à Danger, hein, sympa. Donc, si vous voyez, et maintenant il vaut enfin, le prix d'un 45 tours, quoi, donc il n'y a plus de raison de mettre des sommes folles comme j'ai mis moi. Et après, c'était un autre disque complètement mythique dans le genre. Donc, c'est Gilbert Safrani et les Boots, Les gens s'en vont dans le ciel. Alors c'est un disque pour les gens qui aiment le son garage français, c'est un disque assez mythique. Enfin, les Boots ne sont pas crédités sur le disque. Les Boots, c'était un groupe garage français qui n'a sorti que deux disques, qui avait FR David qui jouait dedans, qui a été après très connu dans les années 70-80 pour des morceaux de disco. Et en fait, Gilbert Safrani, c'est un chanteur marseillais qui a enregistré ce disque, et au moment de le sortir, la maison de disque, là on est sur une major, hein, on n'est plus sur des petits labels, c'est sur Polydor. Et au moment de l'écouter, la maison de disque a dit non, c'est pas possible, c'est horrible, on sortira jamais ce truc là et donc les disques ont été détruits. Et parce qu'évidemment le son garage, c'est, enfin, aujourd'hui nous, pour les gens comme nous, c'est super, mais bon, pour Polydor, c'était un disque qui était censé vendre, et c'est sûr que ça n'a pas un très gros potentiel commercial. Et donc le disque a été détruit, il n'y en a que quelques copies qui ont été distribuées dans les radios ou en promotion. Et donc il vaut une fortune, il vaut vraiment une fortune. Et il a été réédité aussi il n'y a pas longtemps, mais il est vraiment très très dur à trouver.
À cette époque-là, les majeurs étaient plus fans de rock comme ça l'était au début des années 60 ?
Moins. En fait, en 66, on voulait plus des trucs un peu comme les Beatles, ou un peu comme plus pop, plus doux. Oui, comme je te disais donc avant l'émission, en fait... Le rock en France, ça a commencé dans les années... Enfin, il y a eu déjà du rock dans les années 50, avec des gens comme Maurice Salvador et Boris Vian qui faisaient du rock, mais c'était très parodique. De toute façon, il y a toujours... Le côté parodique ne quittera jamais le rock en France. Hein. Je veux dire, de Maurice Salvador jusqu'au Berruyer Noir dans les années 80 avec les Nez de Clown. C'est toujours en France, c'est comme toujours si on avait besoin qu'il y ait de l'humour pour que ça passe. C'est un truc, c'est très très français. Mais moi j'aime bien, en fait, je le revendique ce côté drôle. Je suis un grand fan des Charlots aussi, et je trouve que les Charlots étaient un super bon groupe, mais le côté parodique n'engage à rien. On peut parler de Jacques Dutronc, enfin ça a toujours fait partie associée de, enfin moi je vois, pour moi je vois vraiment une filiation entre Boris Vian et Salvador, les Charlots, les Berruyer Noir, enfin c'est Coluche, il y a même les Vampasses, j'en sais rien. Non, enfin pour moi c'est pas péjoratif le côté drôle, je trouve que ça fait vraiment partie de notre culture, de la façon dont on aborde cette musique. Peut-être qu'on trouvait pas ça assez sérieux, mais peut-être que c'est pas sérieux de toute façon, c'est pas un problème. Et donc oui, en fait, au début des années 60, pour faire très très vite, il y a eu l'explosion avec avec Johnny Hallyday, faut le dire. Faut dire que ses premiers disques, moi je les trouve vraiment très bien, hein. C'est vraiment du peu rock'n'roll, et c'est une musique qui a pris en France comme il y a jamais eu de phénomène comme ça en France, à part peut-être le rap dans les années 80. Je pense vraiment dans le sens où c'était quelque chose de très populaire, ça touchait toutes les classes de la population, parce qu'il y a eu le punk dans les années 80, mais le punk en 77 c'était quand même un truc de classe moyenne, de classe bourgeoise, on va dire, c'était pas quelque chose de trop prolétaire. Et après quand le rap va arriver dans les années 80, on va de nouveau toucher la musique qui va de nouveau venir des classes populaires, des banlieues, etc. Et je pense que l'équivalent, c'est, il y a eu que le rock au tout début des années 60 en France, où c'était vraiment dans toutes les banlieues, dont il y avait des groupes de twist qui se montaient toutes les semaines, quoi. Et ça a pris une proportion assez incroyable. Puis ça a un peu dégénéré, notamment il y a eu un fameux concert avec Johnny Hallyday et Vince Taylor à La Nation, où c'était que Vince Taylor, je ne me rappelle plus s'il y avait Johnny Hallyday. Vince Taylor qui était un rocker anglais qui vivait en France, qui était habillé de cuir noir et qui était l'idole de tous les blousons noirs, de tous les mauvais garçons qui portaient des blousons noirs, justement pour être en accord avec Vince Taylor, et il y a eu des violences, etc. Et à partir de ça, les maisons de disques, le rock a un petit peu petit à petit disparu pour faire place à ce qu'on a appelé les yéyés, donc des chanteurs beaucoup plus doux, beaucoup plus sucrés comme Claude François, Sheila, Sylvie Vartan. Même si Sylvie Vartan, il y avait quand même des côtés encore très très rock, très rhythm and blues. Faut écouter Sylvie Vartan, il y a des énormes adaptations de rhythm and blues qui sont vraiment très très bien. Et Johnny Hallyday était resté assez rock, mais enfin disons que, mais même Johnny Hallyday marchait un petit peu moins au début des années 60, parce que lui il était resté très rock, et il reconnaîtra un peu le succès après, justement avec Noir c'est Noir, etc. Alors je dis pas que ça marchait pas, mais c'était pas encore ce qu'on peut imaginer ce qui sera, quoi. Et donc par rapport, pour revenir à Gilbert Safrani, c'est vrai que c'était pas du tout le style de musique que les maisons de disques attendaient de chanteurs, enfin je sais pas pourquoi ils ont enregistré ça, parce que ça ressemble un petit peu aux Kinks, aux Who, etc. Mais en fait c'était pas quelque chose qui marchait énormément en France, quoi. Voilà. On va continuer avec des choses beaucoup plus produites maintenant, des chanteuses, je reparlerai des chanteuses après. On écoute Groupie.
Dans un groupe à Saint-Germain, il a les cheveux longs, je le trouve mignon. Et bien sûr, la guitare des sons bizarres comme des Pékinois faisant wawa. Moi je suis amoureuse d'un petit œil portant des vestes en franche soir et matin. Il tue les visages pâles à l'orchestrumental. Pour ne pas partir à l'armée, il joue maintenant les petits cinglés. Lui qui avant ne fumait jamais, fume chaque jour 5-6 paquets. Moi je suis amoureuse d'un musicien qui ne rit pas souvent, qui ne dit rien. On vit au jour le jour, ça pour moi c'est l'amour.
La mariée, on m'entend là ?
Oui, oui.
Ah, je savais pas, j'ai pas vu la lumière. Si, il y a la lumière. Donc là, c'était, on écoutait, alors là, on a enchaîné avec une série qui va concerner les chanteuses françaises des années 60. Alors, c'est un sujet que j'aime beaucoup, puisque donc les trois compilations que j'avais sorties au début des années 2000, en fait, ça ne concernait que des chanteuses françaises des années 60. Et c'est un truc qui a assez bien marché. Enfin, quand je dis assez bien marché, je me comprends, hein, pour les gens qui aiment les années 60, hein, c'est pas devenu un succès commercial grandissant. Enfin, je veux dire, c'est juste. Ça reste deux trucs de disques pour des gens concernés qui collectionnent ou qui sont amoureux des années 60. C'est pas des disques grand public.
Et Femme de Paris aussi,
c'était. Voilà, c'était moi aussi.
D'accord.
J'avais fait. Ça, c'était en fait la version. Moi, c'était plus underground et ça, c'est une version officielle en gros de. Enfin, il y a eu trois volumes de Femme de Paris, j'en ai fait un, le dernier. Suite justement à la petite petite reconnaissance que j'avais eue, si on peut dire, avec notre disque un peu underground.
Et le principe, donc, c'était des chanteuses.
Des chanteuses années 60. Alors là, par rapport au... Enfin, quand, c'est pour ça qu'au début de l'émission, je disais, on a commencé avec des vrais groupes. Là, c'est vraiment des productions de studio. C'était des chanteuses qui étaient prises sur casting, on va dire, hein, pour que ça marche, quoi. Et la plupart n'ont pas marché, en tout cas celles qu'on aime aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le style qui aujourd'hui, en fait, pour les gens qui aiment les années 60, enfin depuis une vingtaine d'années en tout cas, ce qui est le plus prisé à l'étranger, c'est vraiment les chanteuses françaises des années 60, quoi. C'est autant ce que j'ai passé au début, en gros, c'est vrai, ça reste, on va dire, une audience francophone et française. Mais alors les chanteuses, ça marche. Je sais pas, les Anglais, les Américains, les Australiens, les Japonais, les Italiens. S'ils ont envie d'avoir un truc français, c'est des petites chanteuses. Ils adorent tous France Gall, Laisse tomber les filles, ce genre de truc. C'est vraiment le son. J'imagine le côté charmant. La France, ça associe à l'amour. Hein, donc voilà, le côté les chanteuses, ça fonctionne.
Les midinettes.
Voilà, les midinettes. Voilà. Et donc concrètement, on avait commencé donc avec Groupie, Amoureuse, donc une chanteuse météorite qui n'a fait qu'un seul 45 tours, c'est probablement pas son nom, et elle a complètement disparu de la circulation. Et on a enchaîné, alors pour le coup, on a enchaîné avec Pussycat, le morceau s'appelait Vive la mariée, c'est un morceau assez intéressant parce que c'est un inédit, enfin, qui n'a jamais été commercialisé. C'est une adaptation française d'un standard garage américain, Paul Revere's Underwriters Kicks. Et Pussycat, elle, par contre, jouait vraiment de la musique. Elle a commencé dans un groupe qui s'appelait les Petites Souris, elle était batteuse. Et elle, par contre, elle jouait vraiment, elle a fait des concerts, c'était une vraie artiste, c'était pas que quelqu'un de. Que du casting, en fait. Et en plus, quand je dis que du casting, c'est pas péjoratif, parce que à l'époque ça pouvait l'être, mais aujourd'hui, 20 ans après, ce qui reste, c'est la musique, quoi. Mm-hmm. Que ce soit des vrais artistes ou que ce soit des trucs de studio, la chanson, elle vous touche pas, point, quoi. Je fais pas un jugement moral par rapport à ça. Et donc Pussycat, en fait, elle est assez mythique parce qu'elle a sorti des 6 ou 7 40 EP qui sont vraiment bien. Enfin, même si je crois que toi ça te plaît pas trop, mais c'est pas grave.
Non, c'était le titre qui était.
Ouais. Et non, mais t'as le droit, voilà, c'est pas. Et c'est vrai que bon, c'est un son, c'est un petit peu vieilli, il faut reconnaître. Alors que le truc d'avant était beaucoup plus produit. Et ça passe encore très très bien, quoi. Alors, on va continuer avec des choses très très produites, puisque c'est produit par une chanteuse qui s'appelle Anna Sinclair. C'est que ce n'est pas loin, en fait, c'est produit par Jean-Claude Vanier, qui c'est l'homme derrière Melody Nelson de Gainsbourg. Donc le son tout de suite, c'est autre chose.
De croire au printemps. fragile. Je devrais lutter pour détruire.
Qui m'a souri. buvais plus, ça ne m'arriverait moins. Si je buvais moins, ça ne m'arriverait plus, non. Si je ne buvais plus, ça ne m'arriverait moins. Là devant moi, qu'est-ce que c'est que ça? Je le vois, mais je n'y crois pas, non. Elle a manqué plus que ça, une fille entre chez moi. Elle m'embrasse, je l'aime aussitôt. Mais cette fille-là, mais qu'est-ce qu'elle a dans le dos? Elle me sourit, elle me dit j'ai des ailes, je suis un ange, bye bye, le bon Dieu m'appelle. Si je vivais moi, ça ne m'arriverait plus, non. Si je ne buvais plus, ça m'arriverait moins. Si je buvais moins, ça ne m'arriverait plus, non. Si je ne buvais plus, ça m'arriverait moins. Moi aussi, je sais voler. Le plus difficile, c'est de décoller. Comme je n'ai pas d'aile dans le dos, je ferais peut-être bien m'associer avec un moineau. Oui, je viens mon ange, oui, je viens à temps, je m'envole, ou alors c'est le seul qui fait ça. Attends-moi mon ange, attends-moi je viens, attends-moi le temps de boire encore un verre de vin. Si je buvais moins, ça ne m'arriverait plus, non. Si je ne buvais plus, ça ne m'arriverait moins. Si je buvais moins, ça ne m'arriverait plus, non. Si je ne buvais plus, ça m'arriverait moins. Si je buvais moins, ça ne m'arriverait plus, non. Si je ne buvais plus.
Thierry de Sacham Disque au club Oldies, Batterie des Goodies aujourd'hui.
Autant on a fait une grosse série. On avait commencé avec Alain Sinclair, C'est que tu n'es pas loin, donc produit par Jean-Claude Vanier, l'homme derrière Melody Nelson. Donc on est sur des choses beaucoup plus produites. Ensuite, une chanteuse totalement inconnue, Laurence Saint-Alban, Au cœur de mon cœur, qui n'a sorti qu'un disque. Pour la petite anecdote, la chanteuse elle-même m'avait appelé pour savoir si je pouvais lui revendre son disque, elle n'avait même plus chez elle. Petite anecdote assez rigolote. Très gentille, mais malheureusement, j'ai refusé.
C'est vrai, c'est tout le monde.
Mais je lui ai enregistré. Et une dame très gentille. Ensuite, on a enchaîné avec des gros standards. Des gros standards pour, en fait, pour les gens qui aiment aujourd'hui les années 60. Donc c'était Le Cœur, Bye Bye City, puis Jacqueline Taïeb, Le Cœur au bout des doigts, et Douglas, Si je buvais moins. Alors en fait, ce que je te disais tout à l'heure, ça, c'est vraiment deux morceaux assez typiques, c'est des morceaux qui n'ont pas du tout marché à l'époque, et aujourd'hui en fait c'est vraiment les trucs, c'est peut-être les trois morceaux les plus recherchés dans le son 60s français. C'est avec le temps, en fait le temps a fait son œuvre, et on voit plus du tout la musique de la même façon, et c'est des trucs qui n'ont pas marché. Le Cœur, c'était un groupe, en fait c'était un morceau composé par Pierre Groscola, qui allait avoir un gros succès de chanteur de variété, plutôt très correct en fait dans le genre dans les années 70. Et ça, c'était son premier groupe. Les disques, je ne sais même pas s'ils ont été commercialisés. Il y en a eu deux qui s'appelaient Le Cœur. Et après, c'est Jacqueline Taïeb, Le Cœur au bout des doigts. Alors Jacqueline Taïeb, elle avait son morceau qui est un petit peu mythique, c'était 7h du matin, donc un morceau qui était vraiment redécouvert par les fans de garage dans les années 80-90, et le morceau est redevenu assez un petit peu connu. Il a même servi pour des publicités dans les années 2000. Et en fait, Jacqueline Taïeb, elle c'était vraiment, ses disques sont vraiment au niveau musique, sont vraiment très très bien faits, très bien produits. Elle est à Londres, elle a enregistré à Londres, et elle est restée dans la musique. C'est une grosse productrice que j'ai rencontrée, qui était très très sympathique. Mais il fallait vraiment qu'il y ait vraiment un côté producteur, c'est qu'elle faisait de la musique pour que ça marche, en gros. Et en fait, elle a connu le succès parce qu'elle est derrière une chanteuse dans les années 80 qui avait un énorme hit qui s'appelait Dana Dawson, une chanteuse américaine. Je me rappelle plus du titre de la chanson, c'était assez horrible, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a vraiment cartonné. Et c'est grâce à cette chanson qu'elle vit, en fait, qu'elle vit toujours, en gros. Et elle a toujours été derrière, comme ses disques n'ont pas marché dans les années 60, après elle est passée derrière derrière le micro, on va dire, pour produire. Et elle a, suite à la réémergence de ces 10 années 60, elle s'est mise de nouveau à refaire des concerts, et c'est assez rigolo. Voilà. Et après, on avait écouté donc Douglas, Si je buvais moins, donc qui est un des morceaux les plus mythiques, parce qu'en fait, pourquoi il est mythique? Parce qu'en fait, c'est assez facile à danser, en fait. Donc il y a pas mal de DJ qui font des soirées des années 60, comme notre ami Polo. Qui aime beaucoup ce morceau, parce que ça fait, c'est un truc très bien pour les DJ sets, quoi.
Je l'ai vu danser là.
Tu l'as danser, voilà. Et on va terminer, je sais pas, on va terminer.
Encore deux morceaux.
Encore deux morceaux, alors. Bah, on l'enlève tout de suite et j'en parle après.
La juxtaposition de 110.
Alors je me suis sauvé pour voir Jackie. J'ai oublié de vous dire, c'est mon ami. Je vais lui raconter mon histoire de fou. Lorsqu'arrive les loulous qui nous donnent des coups, ils sont tous massacrés. Ça, ils l'ont cherché. Pour les enterrer, il fallait prier. Et rapatapon, et rapatapon à la rive, attention, 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 attention.
Qui? La juxtaposition de 110. La juxtaposition de 110.
C'était marqué, ne marchez pas sur les blouses. Icona Endol mystifiait la fiction blues. C'était Samuel Beckett, il se ramène. Oh, sur la lune, il n'y a pas d'oxygène. En attendant Ulysse, toi laisse-moi pleurer. Parce que je me suis retrouvé sur l'oreiller. Et rapatapon, attention, attention, attention.
Qui? La juxtaposition de 110.
Voilà, donc on vient d'écouter Jean-Bernard de Livreville, c'est dur à prononcer, la juxtaposition de 110. Un morceau assez mythique, en fait. Derrière ce Jean-Bernard de Livreville, il y avait un producteur qui s'appelle Germaine Altena, sur lequel j'ai fait une émission spéciale sur les radios, qui a fait quelques productions dans les années 60, qu'on parle très très obscures, mais il avait vraiment un son bien à lui, qu'on va écouter sur l'autre morceau que je vais passer pour terminer l'émission. Et notamment, il faisait plein de bidouilles, il passait des bandes à l'envers. Et j'ai appris récemment, justement, une petite anecdote que je voulais dire quand même, parce que quand j'ai fait l'émission spéciale sur lui, je ne le savais pas. C'est-à-dire qu'il m'a appelé, en fait, après cette émission. Et en fait, dans ce disque, on entend des bandes qui tournent à l'envers. Et en fait, George Martin, le producteur des Beatles, aurait entendu ce disque. Et c'est ce disque qui lui aurait donné l'idée de faire ça après pour les disques sur les disques des Beatles. Alors je ne sais pas si c'est vrai, si c'est une rumeur qui m'a dit ça, parce que. Mais bon, c'est possible, hein, c'est possible, parce qu'en fait. Avant ce disque de 66, il n'y a pas beaucoup de disques où on entend ça, quoi. Mais ça avait déjà dû être fait sur des disques expérimentaux, des trucs comme ça. Mais en tout cas, dans la pop musique, c'était peut-être avant les Beatles.
D'accord. Tu évoquais tes émissions dodécaphonique.
Oui. Dodécaphonie.
Oui. Tu peux rappeler.
C'est une fois par mois sur une radio du web qui s'appelle Lille Radio.
Lille Radio, c'est L.
L-Y-L. En fait, c'est une radio faite par des gens qui sont à Lyon, Paris, Bruxelles et New York, je crois. Et c'est très facile à trouver sur Internet. Hein. Vous tapez Lille Radio.
Et on a accès aux podcasts, bah, des anciennes podcasts, émissions.
Ouais, de toutes les
émissions. T'en as fait combien à peu près de ça?
J'en ai fait. La prochaine, ça sera la 30e, je crois.
D'accord.
Voilà.
Et tout sur les années 60.
Ouais, ouais. En fait, c'est. En gros, je développe ce que je vous ai résumé aujourd'hui pendant une heure. En gros, voilà. D'accord. En gros. Donc là, les deux morceaux qu'on a passés, j'ai fait une émission spéciale sur ce producteur. C'est par son, par. Puis parfois il n'y a pas des émissions spéciales, c'est juste des disques que j'enchaîne. Mais en tout cas, c'est le son que j'ai passé aujourd'hui. Quoi. Voilà.
D'accord. On va en profiter pour te remercier d'avoir été avec nous avoir fait découvrir tout ça, tous ces trésors de la chanson française, de la musique française, du rock français.
Ouais, la chanson, ça me dérange pas. La pop française, on va dire.
D'accord.
La pop, ça englobe un peu tout, quoi. Donc c'est très bien. Voilà.
Du coup, on va se quitter parce que c'est bientôt l'heure. Un dernier titre.
Ouais, donc c'est Clotilde, ça parle les popettes, en fait, la chanteuse mythique produite par la même personne que le morceau Germaine Altenas, le morceau qu'on vient d'écouter avant. Et c'est un de mes morceaux fétiches. Donc on va pas l'entendre en entier, mais je veux absolument qu'on entende un tout petit bout.
Ah bon, on va l'écouter. On te remercie une fois encore. C'était le Club Oldies, but Ready Goodies. Ouais. Bientôt l'émission Patchhorn qui va prendre la suite. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, 15h, 16h, sur les ondes Belles et Rebelles de Radio Canu. Club Oldies avec Paulo, la semaine prochaine.